Pronto, pronto. Ciao ragazzi, ciao à tutti. C'est Cédric Canal qui vous accueille pour un épisode spécial Derby de la capitale. On enregistre en ce mercredi 3 avril, deux clubs à Rome, deux invités donc dans ce numéro. Et avant d'accueillir Stefano Di d'Amoroma.fr pour parler de la Roma, une première partie consacrée à la Lazio avec Elio Gusti. Salut Elio.
Salut.
Comment vas-tu?
Écoute, j'ai pas envie de dire sonné par rapport à la défaite d'hier en coupe, encore pas, et un peu stressé avant ce week-end.
C'est vrai que c'est le calendrier n'est pas clément pour les tifosi de la Lazio et pour Igor Tudor, puisque Igor Tudor, donc depuis son arrivée 15 jours à la tête de la Lazio, à la place de Maurizio Sarri, qui a démissionné, on y reviendra dans un second temps, mais on va se concentrer sur Igor Tudor. Donc il y a eu son premier match contre l'un de ses ex-clubs en tant que joueur, en tant qu'entraîneur adjoint, la Juve. Il s'est imposé 1 à 0 à l'Olympico en championnat, but de Marusic, dans le temps additionnel, au bout du bout, Colto Muso, on peut dire, pour caricaturer en
Exact.
quelque sorte.
Ouais, c'est un beau match. Hein. On a eu. C'était vraiment avec cette passe de Guendouzi. Enfin, Guendouzi, il a vraiment. Enfin, il a de l'ordre dans les pieds, quoi. Vraiment, c'est pas sa première passe D. C'est pas son premier centre. Tous ses centres sont au cordeau. Enfin, il remplace pas physiquement Milinkovic-Savic, mais techniquement, il est là, quoi. Et on l'a même vu en équipe de France. Hein, là, je crois la semaine dernière face au Chili, j'ai vu un bout de match où il était. Il fait des transversales. C'est agréable de voir des joueurs comme ça. Premier match de Tudor, c'était cool parce que c'était un retour au 3-5-2 et j'ai trouvé que les joueurs se sont plutôt bien adaptés. J'ai trouvé la défense très, très bah forcément comme tout le monde, Gila a été extraordinaire. Il a fait un match de patron en défense sur plus côté gauche en plus, donc très 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 bon.
Un peu la bonne surprise, on parlait de Guendouzi qui effectivement lui aussi, parce qu'on avait quelques doutes lorsqu'il arrivait à remplacer Milinkovic-Savic comme tu le disais, mais Gila en défense, le défenseur espagnol, le former Real Madrid, il arrivait un petit peu comme ça, on avait l'impression un peu en troisième, derrière Romagnoli et Casale, mais Casale a eu des blessures, il est en méforme, on l'a encore vu ce mardi soir quand il est rentré en seconde période, Casale avoir un peu de difficultés, mais Gila c'est clairement la bonne pioche on peut dire du
Ouais,
côté...
il n'avait pas beaucoup joué la saison dernière parce qu'il n'y avait que deux places. Et non, je pense qu'il est très 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 bon et on va le voir. Maintenant, il faut que Casale et Romagnoli réapprennent à jouer à trois derrière. On l'a vu hier soir, il y avait des trous dans la raquette, enfin dans la défense centrale. Les deux buts, on les prend comme ça, hein, sur un mauvais alignement de la défense. Ils montent pas en même temps. Enfin voilà, ça va être des trucs à régler et je pense que ça va être très compliqué ce week-end justement à cause de ça. Comme on se disait juste avant de commencer le podcast, Tudor, c'est pas le mec le plus flexible du monde. Donc on sait qu'on sera en 3-5-2 ou en 5-3-2, je sais pas comment on jouera, mais la défense centrale, quand elle sera réglée, je pense qu'on a les joueurs pour. On avait déjà évoqué la dernière fois qu'on a fait le podcast ensemble.
Il y a aussi Patrick qui est en
Exactement.
quatrième, puisqu'on a parlé des trois, Casale, et Gila et Romagnoli. Il y a Patrick qui a joué une mi-temps d'ailleurs, s'il revenait de blessure.
Ouais, Tudor a dit hier qu'il avait sorti, non pas parce qu'il avait pris un coup, mais parce que physiquement, il n'était pas encore là. Patrick, c'est un très bon joueur, enfin, qui s'est révélé grâce à Sarri. Donc, il s'est révélé dans une défense à 2 et pas à 3. Donc, on va voir comment ça passe dans une défense à 3. Là où, à l'époque, il n'était pas terrible avec. Enfin, il n'était pas terrible, il était même horrible, moi, je trouvais, avec Swinzag. Donc, il faudra voir ce que ça donne dans les prochaines semaines, prochains mois. Mais en tout cas, c'est sûr que là, si on compte Casale, Romagnoli, Gila, Patrick. On a de quoi faire pour faire tourner cette défense et avoir des mecs plutôt solides derrière.
Alors, bon, Igor Tudor, effectivement, tu l'as dit, n'est pas l'entraîneur le plus flexible. C'est un petit peu la tradition laziale des dernières années, puisqu'on a eu Simone Inzaghi qui est 3-5-2, 3-5-2, 3-5-2. Puis Maurizio Sarri, 4-3-3, 4-3-3, c'est comme ça. Et donc, Igor Tudor qui arrive pour terminer la saison et qui tout de suite a mis en place cette défense à 3. Alors, tu l'as dit, les défenseurs, c'est vrai, y a matière. Bon, on l'a vu dans les deux matchs. Donc, je le disais, donc, première victoire donc d'entrée pour Igor Tudor à l'Olympico, 1 à 0 contre la Juve. Demi-finale aller de Coupe d'Italie de nouveau contre la Juve, cette fois-ci à Turin, cette fois-ci défaite 2 à 0, avec une seconde période plutôt ratée du côté laziale et donc résultat plutôt logique en un sens. Et
Oui,
donc défense à 3 de nouveau, mais c'est plus les Pistons, je voudrais en parler avec toi, puisque c'est sûrement dans ce système de jeu-là. Bien quasiment les rôles les plus importants, puisque ceux qui donnent de la profondeur, qui donnent de la largeur au jeu. Et donc, on a vu Marusic les deux fois ligne à droite. Lazzari est blessé, faut-il le préciser. Et puis à gauche, ça bricole un peu, du coup, puisqu'on a eu Zaccagni lors du premier match, qui Tu vas me dire ce que tu en penses. Moi, j'ai trouvé plutôt moyen, plutôt limité. On l'a senti, il partait trop long offensivement, il avait du mal. Il me faisait un petit peu penser à Chiesa la saison passée à la Juve, soit Allegri quand pareil, il jouait piston. Et du coup, ça annulait un petit peu ses capacités. Zaccagni s'est blessé en début de match ce mardi soir. Et du coup, c'est Felipe Anderson qui a pris ce rôle-là. Et un petit peu la même chose, on l'a senti un petit peu limité. Voilà, on a l'impression que c'est peut-être dans ce rôle-là qu'il n'y a pas les
Ouais.
hommes pour interpréter le jeu demandé par Tudor.
Bah ouais, en fait, c'est assez marrant, comme tu dis, on a que des entraîneurs assez obtus tactiquement, ce qui est aussi, peut être aussi une bonne chose, hein, parce qu'au moins tu sais sur quoi partir et quel type de joueur avoir pour ton équipe, et on n'est pas forcément, on n'a pas l'argent, on n'a pas les. On n'est pas suffisamment bien placé pour pouvoir avoir une équipe avec suffisamment de joueurs versatiles et de remplaçants pour pouvoir couvrir tous les postes. Le souci, c'est que quand tu as des blessés, donc Lazzari qui n'est pas là, ou Pellegrini, et bah, tu te retrouves à devoir bricoler avec des joueurs qui ne sont pas à leur bon poste, qu'on va un peu annihiler, comme tu as dit, sur Chiesa la saison dernière. C'est exactement le bon exemple. C'est qu'il ne sera ni bon défensivement, ni bon offensivement. De temps en temps, il fera un bon centre. Bon, on sera content. C'est là-dessus, les pistons, ça va être la vraie question. Et finalement, Tudor se retrouve là maintenant. Alors, heureusement, on est bientôt à la fin de la saison, mais il se retrouve dans la logique de Sarri quand il est arrivé. Sarri, il est arrivé et il a une équipe qui était une équipe qui jouait en 3-5-2 et qui était plutôt efficace. Et il s'est retrouvé avec. À vouloir les faire jouer en 4-3-3. Sauf que la majorité des joueurs n'a, comme par exemple Lazzari n'est pas arrière-droit. Mandzukic a beaucoup dépanné à gauche et il est même devenu très bon à gauche. Hein. Mais à la base, Mandzukic jouait plus à droite. C'est assez intéressant de voir ce que ça va donner là. Je pense que sur les prochains matchs, et notamment au derby, ça va être compliqué. Quand Pellegrini va revenir, là, je pense que. Ou Lazzari, on verra un peu plus à quoi peut ressembler justement. Le jeu de Tudor avec des pistons, et l'été prochain, il suffira juste de recruter un joueur en piston, et ça sera déjà un peu plus facile. Je pense que Patrick peut remplacer à droite aussi, mais je comprends pas pourquoi il le fait pas jouer. C'est peut-être longtemps qu'il l'a pas fait, qu'il a pas joué à ce poste aussi, c'est peut-être pour ça.
C'est vrai, on verra. Et puis, il y a d'autres, Isaksen, par exemple, Kamada aussi, qui a été titulaire lors du premier match. On va voir s'il
Ouais.
arrive à les relancer tout d'or, parce que c'est deux joueurs qui ont été recrutés cet été et qui, en fait, on reviendra un petit peu sur Sarri tout de même tout à l'heure. On a l'impression que, voilà, justement, c'est parti de ce mercato-là d'été qui n'a pas forcément bien pris offensivement et les Isaksen, les Kamada qui n'ont pas vraiment apporté ce qu'on pouvait attendre d'eux.
Non, non, bah, le Kamada, je pense qu'il est hors de forme et qu'il est déjà en train de réfléchir. Enfin, on a 3, 4 mois 3 mois à peine pour le faire changer d'avis et donner envie de rester. Lui peut jouer effectivement derrière un attaquant. Il le faisait l'année dernière en Allemagne. En tout cas, en une espèce de 10 ou Mezzala qui peut être intéressant à côté de Guendouzi. Lui va c'est intéressant, va falloir le suivre. Isaksen, il est jeune, comme je te disais, il peut encore s'adapter à plein de rôles, même si je pense qu'avant tout c'est un ailier. Et le vrai problème de cette équipe, ça va être finalement être Zaccagni et Felipe Anderson qui rentreront plus dans la tactique. Mais le bon côté, c'est que j'écoutais une interview de Stefano Maoli hier où il disait justement le problème de Sarri, c'est qu'il a fait un système qui n'était pas fait pour Ciro Immobile. Et même si là, c'est un peu compliqué ce qui s'est passé avec Ciro sur la dimension avec la démission de Sarri, les phrases de Lotito sur moi aussi je suis harcelé, j'ai une protection, blablabla, truc inintéressant à la Lotito, quoi. Là, revenir sur ce format de jeu, c'est possiblement voir aussi le retour de Immobile et en espérant que justement il plante et que ça, qu'on se dise, ouais, on va le garder quand même la saison prochaine et on va pas le laisser partir. Parce que finalement, Castellanos, il est gentil, il a mis deux beaux buts face à Frosinone, mais il n'est pas. C'est pas un super joueur. C'est une espèce d'Argentin qui a joué un peu aux États-Unis, qui était prêté en Espagne. Enfin, ce genre de mec-là, il finira au Panathinaikos ou à Galatasaray. Même pas à Galatasaray, genre à Kazim Passa, là. Le genre de mec, enfin, le genre de joueur qu'on voit
Qui
arriver comme
passe comme
ça.
ça, qui passe et qui voilà qui.
Exactement. Ou alors, c'est le genre de mec qui peut avoir une super carrière à Lecce, quoi. Genre, et il plantera 75 buts à Lecce et il sera un demi-dieu là-bas, mais entre la série B et la série A, et il fera l'ascenseur et ça sera super pour eux. Mais pour nous, ce n'est pas ça qu'il nous faut. Voilà, il faut
Voir
Immobile.
Frosinone, puisque effectivement, il a marqué 3 de ses 4 buts en Serie A contre Frosinone, et donc c'est peut-être
Exactement.
s'il va, peut-être que
Une
s'il joue
bonne
pour
équipe.
eux, peut-être qu'il marquait tout le week-end, on ne sait pas.
Ouais, mais qui est une super équipe. Hein. Même quand, par exemple, face à l'Udinese, où on a été catastrophique, hein, qui est le match de la démission de Sarri, le petit Luca, c'est Luca, c'est ça qui joue en
C'est ça.
pointe, moi, je trouve c'est le genre de joueur italien qu'il faut qu'on récupère pour jouer pour remplacer Immobile à terme. Ou Pinamonti, c'est le genre de mec.
Oui, un attaquant plutôt physique qui peut servir de point d'appui. Parce qu'effectivement, dans le 3-4-2-1 de Tudor, avec deux joueurs qui jouent derrière l'avant-centre, c'est bien d'avoir un peu une tour de
Exactement.
contrôle, quelqu'un qui attire les ballons, qui sait les
C'est
garder.
ça. C'est ça. Et Immobile, il sait pas trop le faire, mais à la limite, il sait toujours faire des petites déviations, etc. Ou ça peut être intéressant, ça, hein. Ça devient un renard à son âge.
Oui.
Mais de toute manière, derrière, pour l'instant, derrière, il n'y a pas de joueur. Il n'y a pas 2-10, enfin 2-10, demi offensif à mettre derrière lui. Il y a Kamada. Philippe Anderson, à mon avis, il sait pas le faire.
Oui, puis il est en fin de contrat, Philippe Anderson, peut-être que mentalement, il n'aura pas l'envie de faire
Oui.
l'effort de s'adapter, par exemple, à jouer piston ou à jouer en disant, bon, dans 2, 3 mois, je suis ailleurs. Donc,
Exactement.
je vois.
Mais bon, ça sera curieux. Enfin, en tout cas, c'est l'éternel recommencement d'être supporter de la Lazio. On va finir la saison, on va espérer du recrutement, on va donner plein de noms en juin, un peu moins en juillet, vraiment beaucoup, pratiquement plus en août. Et puis on va avoir trois joueurs chelous qui vont arriver, dont on ne sait pas où, et peut-être un très très bon joueur. Mais bon. Et puis on ira jouer l'Europa League. Normalement, on va finir en Europa League et ça
Sinon,
sera.
peut-être qu'il y aura le prêt de Correa, peut-être à négocier avec l'Inter. C'est un autre
Oui, mais
objectif.
j'y crois pas à ces retours là. Enfin, Philippe
Bon,
Anderson,
c'est un mec moniteur.
il a été bon une saison et demie avec nous. Correa, il a jamais véritablement été très bon avec nous. Mais on finira dans ces trucs-là, hein, c'est sûr. On va finir à se faire reprêter des joueurs. Alors qu'on a concrètement, on a fait un beau parcours en Ligue des Champions, on a de l'argent, il faut investir un peu, mais le Tito, il
Alors.
a des.
Tu disais parcours en Ligue des Champions, c'est vrai qu'alors, juste un petit mot comme sur Maurizio Sarri, donc qui a démissionné. Alors déjà pour toi, est-ce que ça a été courageux de sa part ou est-ce que ça a plutôt été un acte de faiblesse? Il y a De Laurentiis, son ancien président Napoli, qui rate jamais l'occasion de mettre une cartouche à ses ex, à Giuntoli, Sarri, dès qu'il peut, il y va. Donc tacle les deux pieds décollés en disant que voilà, en gros, il n'a pas assumé en quelque sorte, il a préféré fuir plutôt qu'assumer ses responsabilités et se battre. Ou est-ce que pour toi, et moi je suis plutôt de l'autre camp en me disant, Sarri, ça se voyait depuis pas mal de temps quand même qu'il était en souffrance, qu'il n'avait plus la solution et il a donc dit ben voilà je m'en vais parce que c'est pour le bien de tout le monde, moi j'y arrive plus et vaut mieux laisser du temps effectivement à un nouvel entraîneur de travailler tout de suite. L'Otito a essayé de le garder, hein, faut le préciser, il a essayé de faire changer d'avis, mais voilà, Sarri pour lui c'était terminé. On sait qu'il est obtus comme un Toscan, Maurizio Sarri, donc ça il n'a pas pu le faire revenir sur son avis. Mais voilà pour toi, qu'est-ce que tu as pensé de la démission de Maurizio Sarri et un petit peu de son bilan, puisque mine de rien, il vous a quand même amené à la deuxième place la saison passée et en huitième de finale de la Ligue des Champions cette saison.
Alors, déjà sur le bilan, moi je suis plus que satisfait. On n'a pas remporté de trophée, il aurait même été en gagner un. Mais cette deuxième place, un très très beau jeu l'année dernière, la première saison, il y avait des belles promesses. Enfin voilà, moi je me suis jamais ennuyé avec lui. J'ai parfois crisé. J'étais triste qu'il soit pas, qu'il ne réfléchisse pas à mieux intégrer Chiro dans l'équipe. Parce que sur un buteur comme ça, tu t'en passes pas. Et en fait, ce qu'il voulait, lui, c'était avoir un Mertens, en fait, avoir un faux neuf qui décroche. Et Chiro, il a jamais su s'adapter parce que c'est pas son rôle. Et voilà. Donc là, c'était le seul truc que je peux lui reprocher, c'est ça. Après, moi, je pense qu'il a très très bien fait. Je suis super admiratif de ce qu'il a fait. Il y a peu d'entraîneurs aujourd'hui qui le font. Il faut savoir qu'il a refusé une quelconque indemnisation. Hein. Il a
Oui, c'est une
démissionné
vraie
en France.
démission. Oui, c'est une vraie démission. Il n'y a
Une
pas eu
vraie
de rupture
démission.
conventionnelle
Il a
ou un
vraiment
chèque.
dit. Ouais.
Un bonus, comme a fait Conte, qui a réussi quand même à partir de l'Inter avec un
Oui.
chèque de 7 millions d'euros alors qu'il voulait partir. Donc, Sarri, il est parti voilà, comme ça. Il lui restait.
Oui, ou Mourinho, juste un mois avant, qui va être en procès ou je sais pas quoi, et comme à chaque fois, part avec énormément d'argent. Non, non, moi je trouve ça vraiment bien ce qu'il a fait. Il avait déjà menacé en début de saison les joueurs en disant soit je me casse, soit le problème c'est moi, je me casse, et il n'y a pas de souci, vous montrerez ce que vous voulez. Soit vous me suivez et on y va. Il était obtus, mais il a toujours dit si le problème c'est moi, je me casse. On avait l'Otito qui l'adorait et qui voilà voulait en vrai. Et d'ailleurs, Sarri a su vraiment embrasser la culture Ladiale, et il a vraiment montré, avoir compris ce que c'était être Ladiale, la souffrance, enfin voilà, tout comme ça, on pourrait faire un podcast entier là-dessus, et connaître aussi tous les maestres, les grandes figures de l'histoire du club. Il s'inscrivait dans le projet de l'Otito du Stadio Flaminio de faire de déménager là-bas. Il voulait être le coach qui amenait l'équipe jusque là-bas. Voilà, il voulait finir sa carrière là-bas. Enfin, il voulait finir sa carrière ici. Voilà, c'était quelqu'un vraiment très très bien. Et ce qu'il a fait, je trouve ça génial. Enfin, il y a peu de mecs qui l'auraient fait. Je pense qu'il aurait peut-être pu le faire un peu plus tôt, parce que honnêtement, entre
Il a peut-être entendu la Ligue des Champions, il disait peut-être ça allait peut-être un déclic peut-être avec le match aller, la victoire, il s'est dit bon peut-être ça peut relancer la saison.
ouais, je pense qu'il s'est dit ça, mais on était tellement dans le si, voilà, je pense qu'il aurait pu partir un peu plus tôt quand même, honnêtement. En fait, c'était l'arrivée dans le vestiaire, le problème. Et qui, soi-disant, vient de l'immobilier, je ne sais pas si ça vient que de lui, je pense que ça vient de plein d'autres joueurs. Mais bon, là, c'est très bien ce qu'il a fait. Le Tito a essayé de le retenir, bon, il n'a pas réussi. Peut-être que c'est tant mieux. Tudor, je sais pas si c'est le meilleur choix. Honnêtement, en tout cas, c'est un choix
C'est
cher.
plutôt un entraîneur qui fait plutôt du court terme. Il a jamais fait des longues périodes dans un club. Il a obtenu logiquement donc d'avoir un contrat aussi pour la saison prochaine, parce que c'est pour ça qu'il avait refusé le Napoli. Parce que le Napoli, au moment de prendre Mazzarri,
C'est mort.
avait aussi tenté Tudor, mais Tudor voulait un contrat, ce qui se comprend, avec un peu plus de durée. Il voulait pas juste faire le pompier pour finir la saison. Donc là, Tudor, c'est 1 an et 3 mois. Donc il aura le mercato qu'on a parlé avant. Mais voilà, on sait que c'est souvent un entraîneur aussi qui use très vite.
Oui, il peut se casser après le mercato, comme il a fait à Marseille. Hein. Il peut dire je me casse. Le souci, c'est que moi, j'aurais préféré une solution. On prend Rocky, on prend même Klose, ça m'aurait fait rire. Parce que de la saison, on peut accrocher l'Europe et enfin l'Europa League, et ça serait bien. Il y avait la Coupe à jouer. Bon, je pense que c'est foutu maintenant. Et à la fin de l'année, on allait chercher Italiano qui partait de Dafio et qui a montré de belles choses. Et finalement, avec notre effectif, il aurait peut-être pu aller un peu au-dessus et nous amener, voilà, un bon entraîneur italien qui nous amène, qui a des idées de jeu, qui est plus flexible. Voilà, bon, là c'est tout dehors, on verra. Moi j'ai un très bon souvenir de son Hellas, qui est parmi une des meilleures attaques, je crois. Défensivement, c'était cata, et bon, après il avait l'effectif qu'il avait, mais offensivement c'était chouette. Et donc voyons ce que ça donne, laissons-lui sa chance. Et pour le sujet du podcast d'aujourd'hui, qui est quand même le derby
Alors le
de ce
derby, je voulais terminer avec toi là-dessus, justement, un petit mot donc sur le match. Comment tu vois alors la Roma qui est plutôt en forme depuis l'arrivée de Daniele De Rossi, puisqu'en 10 matchs de championnat, c'est 23 points pris par De Rossi. Il y a eu un vrai changement aussi dans la façon de jouer, une équipe beaucoup plus agressive, une équipe beaucoup plus offensive. Qu'est-ce que tu attends de ce derby, sachant que la Lazio reste sur 3 victoires et un nul, toutes compétitions confondues dans les derbies. Donc qu'est-ce que tu attends de ce match à l'Olympico ce samedi 6 avril?
On est toujours, on se surpasse toujours. Enfin voilà, c'est des matchs compliqués. On arrive toujours à surpasser, etc. Là, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué parce qu'on vient de changer de système. On sera pas super frais parce qu'on a eu ce match face à la Juve, même s'il a un tout petit peu fait tourner. Après, l'atmosphère avec les joueurs se transcende toujours. Je vais être, en étant optimiste, c'est un 0-0 dégueulasse. Avec un rouge de chaque côté, parce que connaissant De Rossi, il va chauffer tout le monde à blanc. Enfin voilà, il y a un truc. Et ça serait bien que Mancini s'en prenne un rouge là. Moi, il m'énerve là. Il faut qu'il se tape des trucs un peu quand même. Il faut qu'on lui mette des cartons. C'est vraiment un abruti sans nom quoi. Mais bon, donc ça peut être comme ça, un rouge partout et 0-0. Ou ça peut être une grosse défaite pour nous, comme le 3-0 qu'on en parlait au début quand ça
Ouais,
est
de mars,
arrivé.
ouais, de mars 2020, de mars
Exactement.
2022, le 3-0 avec les 3 buts de la première période d'Abraham et Pellegrini. Et d'ailleurs, les 2 derniers buts de la Lazio dans les derbies, à chaque fois pour des succès 1-0, c'était Zaccagni. Blessé, a priori, il ne sera pas de retour déjà dès ce samedi, donc c'est une petite tuile en plus pour ceux qui croient en ce genre de série ou de superstition.
Ouais, bah après, voilà, c'est pour ça que peut-être que le 0-0, ça serait le meilleur, ça serait une bonne solution.
Mais on verra, on verra. Elio, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans cet épisode de
Ben,
Ponto
merci à
Calcio
toi.
spécial derby de la capitale, derby toujours bouillant, derby d'ailleurs qui n'a jamais lieu à 20h45, puisque voilà, pour des questions de sécurité, on sait que c'est sûrement le derby d'Italie le plus chaud dans les gros derbies. Celui de Gênes est pas mal aussi dans un esprit différent. Mais Elio, je te remercie et puis on va se quitter avec faire une petite virgule musical avant d'accueillir Stefano Di qui lui va nous parler de la Roma. Stefano Di d'Amoroma.fr. Nous on se quitte avec un petit jingle Quit from Desire de Gala puisque c'est l'un des chants de la courbe nord de la Lazio. Elio.
Lazio is on fire. Espérons que ça sera le cas dimanche. Merci.
Ciao, merci. Est-ce que tu aimes bien cette chanson, Stéphane? Tu l'as reconnue ou pas?
Écoute. Ouais, j'ai reconnu et sans plus. Une fois que tu l'écoutes, tu l'as en boucle toute la journée dans la tête. Donc, c'est pas celle que je mettrais le matin au réveil.
C'est ça. Cette transition avec donc Gala, Fruit from Desire, qui est l'un des chants repris en tout cas par la couronne nord de la Lazio. On vient de terminer avec la Lazio avec Elio Gusti. Et on t'accueille donc Stéphane Audi d'Amoroma.fr. Salut Stéphane.
Salut à tous, salut Cédric.
En direct de Rome, où il y a un discret soleil, comment tu vas?
Ben écoute, ça va plutôt bien. On prépare le derby. On a pas mal de touristes français qui vont arriver. Du coup, on a préparé des petits événements au week-end et on ira voir le match ensemble. Donc voilà, ça se prépare tranquillement.
Alors, on en parlera justement à la fin de ce qui se prépare dans les coulisses d'Amoroma et d'Amoromato, puisqu'il y aura pas mal de choses. On parle un petit peu du maillot aussi, un petit mot, puisque tu as pu le voir. Et tu nous diras. Mais comme on a terminé la partie Lazio en évoquant ce derby, toi, qu'est-ce que tu attends de ce derby? Je le rappelais précédemment, qui sourit plutôt au Laziale depuis quelques saisons, puisqu'il y a eu 3 victoires et un nul, série en cours, 4 matchs sans marquer pour la Roma. Mais tout ça, c'est avec Mourinho. La vie, elle a changé avec DDR, non?
C'est ça, t'as tout dit. Écoute, ce qu'on attend de ce match, ben le petit contre-résultat de la Roma à Lecce, et que ce match il va être très important, très important. La première chose que je mettrai en avant, mais c'est très important pour la victoire du derby, parce que comme tu l'as dit, ça fait quelques derbies où on n'est pas en réussite, je veux dire. Là, je crois que sur les 10 derniers derbies, on n'a que 2 victoires, 3 nuls et 5 défaites. Je vais regarder un petit peu les stats. Donc voilà, donc reprendre un petit peu la possession de Rome sur les derbies. Et ensuite, bah, au classement, on voit qu'on est à 6 points de la Lazio. Donc une victoire au derby, on les met à 9 points. Et une victoire de la Lazio, bah, ils reviendraient à 3 points de nous. Donc voilà, ça va être important pour les supporters, ça va être important pour les points, pour une qualif en Europe. Et donc voilà, c'est un match qui est très attendu. Ce sera le premier derby de Delos sur le banc de la Roma. Donc voilà, énormément de choses qui font que le match est très attendu. Et après des petits doutes avec ce qu'on a pu voir sur certains matchs
Alors,
depuis Delos aussi.
effectivement, Daniele De Rossi qui a eu de très très bons débuts. Alors, contrairement à Igor Tudor, on en parlait sur le début de calendrier où il n'est pas chanceux puisqu'il se prend 2 fois la Juve puis un derby. Pour commencer, on a connu plus Clément. De Rossi, il a plutôt eu un calendrier clément. Au début, il a pu bien commencer, il a enchaîné les victoires. Il y a eu la défaite contre l'Inter, mais bon, cette période-là, tout le monde perdait contre l'Inter. Et il faut le rappeler, l'excellente première période de la Roma qui avait vraiment mis en difficulté les interistes. On rentre en vestiaire avec 2-1. C'est l'une des seules 3 équipes en Serie A cette saison qui a réussi à mener contre l'Inter. Donc c'est quand même, enfin, c'était quand même à signaler. Et puis Lukaku qui a un petit peu mangé la feuille. Dommage, dommage. Mais
C'est vrai.
23 points sur les 10 premiers matchs de De Rossi, c'est le troisième meilleur début depuis la victoire à 3 points et depuis donc la saison 94-95. Le meilleur, c'est Garcia, 30 points, et Di Francesco ensuite avec 24 points. C'est une stat opta qui a été donnée dans le week-end. Mais voilà, outre ce petit couac qui est encore Lecce, c'est compliqué, mais c'est vraiment positif dans le contenu, j'ai envie de dire, De Rossi, et aussi dans l'état d'esprit, parce que c'est surtout ça, plus que dans le jeu, qui est beaucoup plus agréable à regarder. Je pense qu'il n'y a pas photo entre regarder un match de la Roma sous Mourinho, surtout les derniers matchs, et la Roma de De Rossi, mais c'est surtout l'état d'esprit. On a l'impression que voilà, y a un vent frais dans les têtes, il a vraiment changé les choses.
Ouais, tout à fait. On sent que le groupe vit bien. Nous, on en parlait souvent. On a l'impression que ce groupe-là, les joueurs se débrident un petit peu. Ils étaient peut-être utilisés d'une certaine façon par Mourinho dans une certaine façon de jouer qui ne correspondait pas forcément aux joueurs qu'on avait. Là, voilà. Là, ça va bien. Après, on marque beaucoup de buts. La seule défaite, tu l'as dit, c'est l'Inter sur les 10 matchs. Les 2 nuls, c'est Fiorentina à Florence et Lecce à l'extérieur. Mais après, effectivement, ils commencent avec une série de matchs qui était assez facile jusqu'à l'Inter. Mais après, on a vu qu'avec Mourinho, les matchs faciles n'étaient pas forcément des matchs où on récupérait les 3 points. Donc voilà, intéressant. Après, les petits doutes qu'on a, c'est certains matchs sur la composition. Là, Lecce, on a eu du mal à comprendre la composition de Rossi parce qu'il a changé beaucoup de choses et il y a des postes où peut-être qu'il n'aurait pas dû changer directement. Et ensuite, il y a des moments de creux. Il y a eu une mi-temps à Frosinone qui était abominable et on gagne 3-0 sur la deuxième mi-temps, mais la première mi-temps, elle est pas bonne du tout. Lecce, on n'a pas été du tout dans le rythme, on n'a pas été du tout dans le bon état d'esprit, etc. Donc, il arrive par moments que même sous De Rossi, alors que l'équipe vit bien et que l'équipe a un bon état d'esprit, ben, par moments, on a l'impression que l'équipe se perd un petit peu. Et c'est surtout le cas quand tu perds tes joueurs clés comme Dybala et Pellegrini qui étaient absents sur le match d'hier.
C'est vrai que Daniele De Rossi, alors, a redonné sa chance un petit peu à tout le monde. On a vu des joueurs, ben, Aouar, par exemple, que le public français connaît bien, puisque c'est l'ancien Lyonnais qui arrivait en fin de contrat, libre donc à la Roma, et qui pas vraiment eu sa chance avec Mourinho. Rapidement, il était mis à l'écart. On sentait que c'est sûrement, d'un point de vue peut-être de l'intensité, notamment, où il avait du mal à trouver une place. De Rossi l'a relancé, l'a réintégré dans la rotation. Il fait un petit peu avec tout le monde. On le voit, tu le disais, changer un peu les postes, ça changer les schémas, puisqu'on l'a vu remettre une défense à 3 il y a quelques semaines sur un match, alors qu'il était plutôt sur une défense à 4 depuis son arrivée. Donc c'est vrai que c'est un De Rossi qui, au contraire de Tudor, on en parlait dans la première partie, qui est très dogmatique, toujours la défense à 3, il va mettre en Zaccagni piston. De Rossi, on le sent beaucoup plus dans une certaine fluidité, flexibilité, aussi bien pour les joueurs que pour les schémas.
La chose, c'est que De Rossi, comme il a pu le dire avant d'arriver, c'est que la Roma, c'est son club de cœur. Donc, même s'il n'était pas entraîneur de la Roma, il voyait tous les matchs. Il avait déjà une idée sur comment la Roma pourrait jouer autrement, comment les joueurs pourraient être utilisés. Donc, quand il est arrivé, il avait déjà ses idées. Il connaissait. Donc, il n'arrive pas dans un club où il doit regarder des bandes vidéo pour connaître un petit peu les joueurs, etc. Donc, il est arrivé. Lui, s'est très vite adapté. Il a essayé de s'adapter aux joueurs et trouver des solutions rapidement pour gagner des matchs. On voit que ça fonctionne. Mais voilà, par moment, il y a des petites choses qui passent pas. Et même lui, il est assez énervé en fin de match parce qu'il trouve que le comportement, l'agressivité n'était pas là sur quelques moments du match ou quelques mi-temps. C'est arrivé. Pour le derby, on va avoir le retour de certains joueurs qui sont importants. On a juste Ndicka qui est suspendu. C'est pour ça d'ailleurs, on comprend pas pourquoi il a commencé contre Lecce parce qu'il était sous le coup d'une suspension et s'est fait suspendre avec le jaune. Il y aura peut-être le retour de Spinazzola. Il y aura Dybala, Pellegrini, El Shaarawy qui sera titulaire. Donc on aura pratiquement le 11 au complet qui fait gagner De Rossi depuis le début. Et surtout, on aura des joueurs qui, mentalement, sont prêts à affronter ce type de match, comme Pellegrini, Mancini, Dybala, Cristante et autres. Donc voilà, il a fait des petits tests sur certains matchs. Il y a des mi-temps où c'est pas très bien passé. Mais moi, pour le derby, je suis assez confiant sur l'état d'esprit dans lequel va rentrer l'équipe et les joueurs, parce qu'on aura vraiment l'équipe qui est la plus compétitive possible pour ce match-là.
Alors, le capitaine Lorenzo Pellegrini, c'est un petit peu le symbole de la renaissance de la Roma, puisqu'il était quasiment disparu avec des blessures sous Mourinho. On va passer l'épisode de la bague, laissée dans le vestiaire par José
Ouais.
Mourinho, dans le vestiaire de son ex désormais capitaine. Mais Pellegrini, donc c'est 6 buts, 5 en Serie A et 1 en Europa League. C'est aussi un but en national sur les 2 derniers mois et depuis l'arrivée de De Rossi sur le banc de la Roma. Et c'est surtout une fraîcheur vraiment retrouvée, on le sent heureux. S'il y a un symbole de la Roma version De Rossi, c'est lui, non?
Ah bah oui, tout à fait, tout à fait. C'est lui, c'est Dybala qui est plus constant et qui est un peu plus libre de jouer. C'est El Shaarawy qu'on a retrouvé aussi quand tu le mets, ben, quand tu le mets à son poste, quand tu le mets pas à latéral gauche pour défendre. Donc c'est tout ce que je disais tout à l'heure, c'est voilà des joueurs qui se retrouvent au poste de prédilection, dans une façon de jouer qu'ils comprennent mieux et du coup ben, qui peuvent s'exprimer et qui peuvent apporter un plus. Là Pellegrini, tu disais si on prend que la Serie A sur les 10 matchs avec De Rossi, Pellegrini c'est 5 buts, 3 passes décisives, Dybala c'est 7 buts, une passe décisive et Lukaku c'est 2 buts, 2 passes décisives. Le seul qui est un petit peu en retrait, ben c'est Lukaku, parce qu'on a plus ce jeu long sur lui où il va imposer son physique, etc. Donc voilà, c'est lui qui est un petit peu en dedans, sauf qu'on n'a pas d'autre buteur vu que Osimhen est out et blessé. Donc ça
Abraham,
sera
il revient
certainement
quand
Lukaku
d'ailleurs?
qui sera là.
Parce qu'Abraham,
Ben
il avait
alors,
marqué lors de la dernière victoire de la Roma, il signe un doublé, Abraham.
c'est ça, c'est lui qui marque sur le 3-0. Alors Abraham, il fait les entraînements avec le groupe. Il était sur le banc pour sa solo. C'était un petit peu une récompense pour le ramener à l'Olympico, qu'il ressente un petit peu la chaleur du stade et autres. Mais là, il est sur une phase où il a encore besoin on parle de 2 semaines. 2 semaines pour se remettre vraiment dans le rythme de compétition et pour pouvoir rentrer quelques minutes sur un match. Donc là, pour le derby, moi, je pense qu'il va le convoquer, qu'il va le mettre sur le banc pour qu'il soit avec le groupe et pour que, voilà, qu'on ait vraiment une unité sur le banc. Mais après, il est pratiquement impossible qu'il puisse rentrer sur le derby. Mais par contre, il pourra aider en fin de saison puisque là, il est apte à jouer. Sauf qu'il a besoin de ces 2 semaines de préparation athlétique où vraiment on va pousser le moteur au maximum pour voir qu'il n'y a pas de souci pour le remettre dans le jus. Donc là, pour le moment, on a que Lukaku. Après, pour les autres postes, on a des solutions. Souvent, les solutions ne donnent pas forcément satisfaction, mais on peut modifier. On sait que Delos, il aime bien, en cours de match, suivant comment ça se passe, bah, changer, voir le système, les joueurs, passer à 3, 3,5. Donc voilà, il y a des solutions. Pour moi, ça va être un des plus beaux derbies de ces dernières années. Parce que contre Mourinho, c'était très compliqué de jouer les derbies. Pour lui, on avait l'impression que c'était un match comme les autres et qu'il n'y avait pas de différence à jouer un derby ou à jouer un autre match. Là, Delos, il va avoir à cœur de marquer ça, match à domicile. Donc voilà, je pense qu'on va avoir un beau derby. On a une belle équipe de la Roma, les joueurs sont en forme. Donc écoute, pour moi, il y a tout pour faire un beau match. La Lazio aura eu un petit peu de repos en moins avec son match hier en Coppa Italia. Après, le seul petit problème de Delossi, c'est qu'Tudor. Tudor vient d'arriver, donc c'est compliqué d'analyser et de préparer un match en fonction de l'adversaire quand tu sais pas trop comment va jouer Tudor avec cette équipe. Moi, je m'attends à une première mi-temps, enfin au moins un premier quart d'heure où la Roma va essayer de pousser. Et puis en fonction de ce que Tudor propose, ils vont peut-être attendre un petit peu et pousser en deuxième mi-temps. Mais je pense qu'on va vraiment se régaler à l'Olympico sur ce match-là.
Match donc où la Roma reçoit, il y aura sûrement une très très belle chorégraphie, scénographie, quoi, comme à chaque fois de la courbe sud et aussi de l'autre côté de la courbe nord, c'est aussi partie
Ouais.
des belles images à chaque fois. Amoroma Tour, amoroma.fr aussi, je crois qu'il y a pas mal de Français qui seront dans les tribunes. Tu veux un petit peu les réunir avant le match, il y aura des petites choses pendant le week-end.
Alors, petit problème, c'est que le match est samedi à 18h. Donc, beaucoup avaient prévu qu'il soit le dimanche. Le samedi, ils ne peuvent pas venir parce que, ben, voilà, il y a des problèmes d'avion, de travail, etc. Donc, on va être sur un groupe réduit. L'année dernière, enfin, 2022-2023, on était pratiquement 70 francophones sur Rome pour vivre le derby. Là, ça sera une petite quinzaine, je pense, pas plus. Voilà, samedi matin, on a un Giallo Rosso Tour. On va visiter un peu les quartiers de la Roma. On ira voir le Roma Club Testaccio. Donc, pas mal de petites choses. L'après-midi, un petit rendez-vous pour ceux qui n'ont pas pu venir avant le match. On voit le match. Le match étant à 18h, il y aura une petite soirée dans le centre de Rome après le match. Et le dimanche matin, rebelote, un petit tour du centre historique, un petit repas pour aller manger un petit peu des pâtes le midi. Et le soir, on fera un tour de nuit avec un finish à Monti où il y a les fameuses fresques de Totti, etc. Donc voilà, c'est un petit week-end tranquille. Le calendrier faisant que c'est assez compliqué de s'organiser. Tu le sais toi aussi, mais les dates arriveront assez tard. C'est quand même très compliqué. T'achètes tes billets sans savoir quand est-ce que le match va avoir lieu. Ensuite, il faut arriver à organiser tout ça pour les déplacements. C'est compliqué.
C'est vrai que pour l'autre derby qui va arriver dans 2 semaines, celui de Milan, ça a été la même chose qui
Ouais.
a été programmé le lundi soir. C'est vrai que beaucoup de supporters qui avaient acheté des billets en pensant que ce serait dimanche soir se retrouvent un petit peu en difficulté parce que ben, lundi ils travaillent, donc
Eh
ils se
oui,
retrouvent
c'est ça.
un petit peu en difficulté. Mais en tout cas, si jamais il y a des gens qui nous écoutent d'ailleurs et qui vont au derby, sur les réseaux sociaux, on va mettre bien sûr tes contacts, comme ça ils
Voilà,
peuvent
avec
peut-être
plaisir.
venir s'ajouter au groupe en dernière minute, comme ça pour vivre un petit peu ce derby de l'intérieur et depuis Rome où tu vis, où tu travailles. Et justement, toi, tu peux assister aussi aux conférences de presse de De Rossi, tu vis l'ambiance des matchs. Là-dessus aussi, ça a changé vraiment la Roma, c'est plus apaisé. Parce que moi, j'écoute De Rossi, bon, déjà, il parle, parce que Mourinho, parfois, il
Ouais.
parle pas ou il parlait portugais. Donc, déjà, il parle, De Rossi, et surtout, il est positif. C'est, je le vois toujours, il a toujours dire des choses sur les joueurs, sur ceux qui rentrent en cours de match. Il essaie vraiment aussi, voilà, d'insuffler ça.
Alors tu vois que après c'est le début, c'est le début de sa carrière d'entraîneur, donc il a peut-être plus d'entrain, plus de motivation que quand tu as fait des conférences de presse pendant des dizaines d'années. Mais non, on voit qu'il aime parler, il aime expliquer les choses, il aime répondre aux questions. Des fois, c'est même un petit peu trop long, on est obligé de le freiner parce que sinon il pourrait parler pendant des heures avant, après les matchs. Mais non, voilà, c'est un régal. Il est passionné, il transmet ça et c'est très bien. Alors après, il a été un peu repris sur les réseaux par rapport à sa petite phrase sur l'arbitrage, sur le penalty de Zales qui contre Lecce, etc. Mais voilà, après, il faut lire les déclarations en entier de Delo aussi, parce que le but, c'était pas de mettre un point sur un penalty non sifflé, c'était plus de dire quelle est la règle et il faudrait que les règles soient les mêmes pour tout le monde et qu'on arrive à uniformiser tout ça. Donc voilà, il faut aussi lire les choses entièrement. On sait qu'avec les réseaux sociaux, le problème, c'est qu'on prend souvent une petite partie de phrase et puis après, on donne notre avis là-dessus. Mais voilà, c'est très intéressant Delo aussi, parce que les conférences de presse sont assez longues et vraiment, il explique tout, comment il joue, pourquoi est-ce qu'il a fait tel choix. Voilà, il n'y a pas de choses taboues et c'est vraiment un vent frais au Stadio, un vent frais à Rome. où les gens reprennent le sourire et on a re-envie de parler de la Rome, envie d'aller au stade, envie de voir les joueurs. Alors que sur l'affaire de Mourinho, j'avoue que c'était assez tendu.
Ça me fait penser, c'est vrai que bon, j'étais au match Roma-Inter, il y avait eu ce but, l'ouverture du score de l'Inter qui faisait polémique, et lui, le premier, à la fin du match, a dit, pour moi, il y a but, il n'y a pas hors-jeu de Thuram sur Upatrice. Enfin voilà, c'est vrai que c'est quelqu'un d'assez honnête aussi, et ça aussi, ça fait du bien, il n'est pas à créer les polémiques, il n'est pas à chercher des excuses. Donc, tu as raison sur le match contre Lecce. Moi aussi, j'ai entendu cette déclaration. Il n'était pas du tout dans le côté polémique, il était dans le côté ça se siffle ailleurs. On peut nous le siffler. Après, lui, il ne demandait pas vraiment le pénalty, parce que pour lui, il n'y avait pas forcément de pénalty. Mais comme ça se siffle ailleurs, bah, donnez-le nous. Et dans ce cas-là, il a raison. C'est plus
C'est ça.
l'uniformité.
Un petit peu tout ça. Surtout que pour terminer, Delo, si on sait que c'est même quand il était joueur, c'était un petit peu le cauchemar des arbitres. Parce que Delo, connaît très très bien les règles. C'est quelque chose qui l'intéresse beaucoup. Il connaissait par cœur les règles du jeu, etc. Donc voilà, c'est juste que les règles, il trouvait que c'était peut-être pas adapté à tout le monde de la même façon. Donc il fallait en discuter. Mais hormis ça, il n'y a pas de scandale sur Lecce. Et s'il y a eu 0-0, c'est à cause de la Roma. À cause des choix de Delo aussi, à cause des joueurs, mais surtout pas à cause d'un pénalty non sifflé.
Alors, il y a un thème pour terminer qu'on n'a pas évoqué. On n'a pas évoqué d'ailleurs aussi du côté de la Lazio, c'est que ces dernières saisons, les derbies, c'était Provedel contre Rui Patricio. Provedel est blessé, soit donc Mandas, qui fait plutôt un bon intérim d'ailleurs du côté de la Lazio, et donc Svilar du côté de la Roma, qui là aussi a vraiment fait du bien, parce qu'il a changé un petit peu même la façon de jouer, parce qu'il est meilleur au pied aussi, il est meilleur dans la relance que Rui Patricio. Et quand De Rossi est arrivé, bon, il avait confirmé le gardien portugais en disant, moi, il me faut un gardien titulaire, c'est lui. Et puis, ben, après le match contre l'Inter, d'ailleurs, je crois, où Rui Patricio n'a pas été bon, où il a donné une chance à Svilar, il a été bon, il a enchaîné aussi en Europa League, et il a confirmé à De Rossi que c'était désormais son titulaire. Et c'est une belle surprise, ce jeune gardien.
Ben, si vous vous rappelez, quand il est arrivé, c'est Mourinho qui avait dit Svilar, c'est une bête. Il avait eu contre lui en Ligue des Champions. Donc c'était un tout jeune gardien qui jouait en Ligue des Champions. Il avait impressionné. Donc il avait fait venir à Rome. Certains parlaient de le vendre, etc. Nous, on avait plutôt, enfin, en interne, on avait plutôt l'impression qu'il avait besoin de. C'est un gardien qui pouvait être très bon, mais qu'il avait besoin de continuité. Le problème, c'est qu'avec Mourinho, ben, c'est Rui Patricio, et puis de temps en temps, lui donner des petits bouts. Là, ben, Delos, il arrive, c'est normal, t'as Rui Patricio, tu peux pas mettre un jeune qui connaît pas forcément à sa place. Mais après, ben, quand il a eu sa chance, il a pris sa chance, Svilar. Et depuis, ben, il nous montre de très belles choses, les pénaltys arrêtés, il nous donne des qualifications, il est bon au pied, comme tu l'as dit, il est bon sur sa ligne, il rassure la défense. Donc, pour le moment, il n'y a pas besoin d'en changer. Et du coup, ben, ça remet un petit peu en question parce que Patricio finit en juin son contrat. Donc, la Roma était à la recherche d'un gardien. Est-ce qu'au final, il ne faut pas prolonger Svilar et trouver un gardien numéro 2? Donc, à voir la fin de saison, mais pour le moment, Svilar, il impressionne beaucoup de monde. On savait qu'il avait un fort potentiel, mais on ne pensait pas qu'aussi rapidement il allait pouvoir prendre ses responsabilités et être aussi fort. Mais voilà, très belle surprise. Et c'est ce qui fait aussi qu'on a une belle série de victoires avec Delo aussi. C'est que Svilar est là et j'aime beaucoup Rui Patricio, mais je ne suis pas sûr qu'avec Rui Patricio dans les cages, on aurait le même nombre de points aujourd'hui.
Et le quart de finale d'Europa League, un petit mot très rapide là-dessus, parce que ce n'est pas le thème du podcast, mais il y aura aussi ce quart de finale donc, contre l'AC Milan, qui sera forcément aussi important, puisque ben, on a l'habitude, maintenant la Roma va en finale des Coupes d'Europe au mois de mai. Donc il y a eu deux finales en 2 ans, la Conference League gagnée et l'Europa League perdue. Est-ce qu'au sein du club, il y a un objectif à égalité avec la Ligue des Champions à aller chercher, puisque la Roma est à la lutte pour la 4e/5e place, puisqu'on sait que la 5e place devrait être aussi synonyme de Ligue des Champions pour l'Italie, puisque, avec, vous le savez, la nouvelle formule, il y a deux championnats qui auront une place en plus, et l'Italie et l'Angleterre sont bien partis pour avoir la place bonus. Donc, 5e place, ça devrait être Ligue des Champions. C'est quoi dans l'idée des dirigeants et dans l'idée de De Rossi, il y a quelque chose de prioritaire? Sachant que si tu gagnes l'Europa League, tu vas aussi en Ligue des Champions, mais bon, il y a Liverpool, il y a.
C'est ça, c'est plus compliqué parce que pour moi, c'est plus facile d'y accéder en championnat, vu la place où est la Roma aujourd'hui, ils ont un petit peu les cartes entre leurs mains. L'Europa League, pour moi, c'est un bonus. Je vais pas dire qu'on va le lâcher, pas du tout. Mais dans l'état d'esprit pour Delo, si on peut pas faire des prévisions. On peut pas se dire tel match, on le joue à moitié parce que le match d'après, il y a l'Europa League et il va falloir se qualifier, etc. Il est obligé de prendre les matchs les uns après les autres, il est obligé de mettre les meilleurs joueurs qu'il a sur le moment par rapport à ce qu'il veut faire. Donc, il n'y a pas trop de calcul. Après, on va voir comment ça se passe contre Milan, mais c'est sûr que si au match aller, on se prend un 3-0 ou un 4-0, ben peut-être qu'il va gérer le retour pour le championnat. Mais il va y aller pour le jouer de la même façon que les matchs de championnat. Dans tous les cas, on a l'effectif pour jouer tous les 3 jours. On a beau dire que c'est compliqué de jouer tous les 3 jours, mais je pense que quand tu as un effectif de 20, 22 joueurs et que tu es professionnel, tu peux jouer tous les 3 jours sur une certaine période. Non, non, pour le moment, il n'y a aucun objectif prioritaire. Peut-être que dans 15 jours, ben, si on est largué dans l'un ou dans l'autre, ben, on changera notre fusil d'épaule. Mais là, aujourd'hui, chaque match va être pris en essayant de le gagner. Et tu vois, juste, ça me fait penser, par exemple, Lecce, où El Shaarawy était sur le banc alors que Pellegrini était suspendu et Dybala était blessé. On met El Shaarawy sur le banc pour Mezzaleschi et Baldanzi et on voit que ben, il manquait quelque chose. Donc si dans la tête de Delos, si c'était mettre Zaleski pour laisser au repos El Shaarawy pour le derby, on a fait une erreur parce qu'au final on aurait pu pousser en première mi-temps avec El Shaarawy et aller mettre un but. Donc aujourd'hui, je pense que la Roma ne peut pas calculer. Puis on verra dans le sprint final, quand il restera quelques journées, ben, si faut pousser plus d'un côté que d'un autre, mais pour le moment, c'est pas le cas.
Bien, en tout cas, on verra. Je ne demande pas de pronostic. Je préfère pas partir là-dessus parce que tu as la culture italienne, donc tu
C'est
nous
ça.
ferais une gouffata. Donc, je préfère pas te demander. Merci beaucoup, Stéphane Audi, amoroma.fr, Amoroma Tour. Un petit mot juste, le maillot. Le maillot, il y a un maillot, parce que maintenant, il y a des maillots. On sort des maillots capsules, collections, partenariats, enfin, un petit peu dans tous les sens. Donc, il y a un maillot derby. Tu as pu le voir. Qu'est-ce que ça donne, ce maillot un petit peu vintage, si j'ai bien compris? Parce que j'ai juste vu les photos, mais toi qui l'as vu en vrai.
Alors, je suis allé le voir hier matin au Roma Store. J'ai fait quelques photos et petites vidéos. Il a inspiré des maillots un peu à l'ancienne. D'ailleurs, c'est Del Vecchio qui présente le maillot sur la communication. Écoute, les supporters sont assez contents. Le retour du petit col en V qu'ils aiment bien, le petit V avec le col jaune. Moi, je suis pas un collectionneur de maillots. J'aime bien les maillots de foot, mais après, je suis pas non plus un grand connaisseur là-dessus. Bon, écoute, je pense que pour un maillot un peu collector, il aurait pu y avoir des petits détails en plus ou autre. Je le trouve assez basique. Et il n'y a rien de spécial sur les manches, dans le col derrière, il n'y a rien d'écrit, alors que même sur le maillot actuel, il y a le Figlio di Roma ou un petit logo, un petit loupette ou autre. Celui-ci, je le trouve assez basique. J'ai même l'impression que c'est un petit truc qui a été fait pas au dernier moment, mais voilà, juste pour marquer le coup. C'est pas le collector qui me restera le plus. Moi, j'ai toujours en tête le spécial derby avec le SPQR
Oui.
en or quand il y avait encore Delossi et Totti. Là, on avait vraiment quelque chose de très très beau. Celui-ci, écoute, je le trouve assez moyen, mais bon, les fans des maillots et les collectionneurs sont jetés dessus, vu qu'il est déjà en rupture sur le site, et je crois que dans le Roma Store, il en reste très peu. Donc voilà. Mais après, alors, ce qui va être intéressant, c'est qu'ils vont jouer comme dans les anciens kits. Ils auront le maillot rouge samedi, short blanc et chaussettes noires, comme les anciens kits de la Roma. Donc on est sur un petit retour, un petit côté vintage, qui va être intéressant. Et après, comme toujours, eh bien, les maillots que porteront les joueurs sont un peu différents des maillots qui sont mis en commerce. Donc, une fois qu'ils sont cintrés, etc., donc ça aura peut-être une meilleure gueule que ce que j'ai pu voir sur les mannequins du Roma Store.
Bien, on verra donc samedi à 18h, Stadio Olimpico, donc pour le derby de Rome qui sera bien sûr l'affiche de cette 31e journée de Serie A. Stéphane, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans cet épisode de Pronto Calcio.
Ben, merci à toi, Cédric. Merci à tout le monde. Et à une prochaine fois pour des bonnes nouvelles de la Roma. J'espère revenir pour des bonnes nouvelles.
On te le souhaite, on remercie aussi Elio Augusti, Tifoso de la Lazio, bien connu, qui a été avec nous dans la première partie. Et puis on se quitte, allez, je te fais plaisir, Stéphane, on se quitte avec Grazie Roma d'Antonello Banditti.
C'est mieux que Free From Desire.
C'est vrai, c'est autre chose. Et ce sera bien sûr, mais avant le match, parce que c'est avant chaque match,
Oui.
il y a cette Inno d'Oblivi, on peut dire, de la Roma qui est chantée par tout le stade. Et nous, on se quitte donc avec la version chantée par Antonello Banditti. Et puis, ben, Pronto Calcio reviendra bien sûr pour débriefer cette 31e journée de Serie A avec mes camarades que je salue, Antoine Aiello, Nicolas Wagner et Raphaël Gauthier. Et puis, vous pouvez bien sûr retrouver tout le catalogue sur les principales plateformes de podcast. Ciao, ciao!